Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présenté par Sylvie Rosier.
L'accalmie aura été éphémère. L'explosion de la pauvreté, tant redoutée à l'arrivée de la pandémie, n'a certes pas eu lieu, en grande partie grâce au soutien public mis alors en place pour les plus précaires, tels que la majoration de l'allocation de rentrée scolaire ou l'aide exceptionnelle de solidarité. Mais sitôt ces dispositifs arrêtés, l'année suivante, le taux de pauvreté monétaire a de nouveau augmenté. Il est passé de 13,6% de la population en 2020 à 14,5% en 2021, selon les données encore provisoires de l'INSEE. Malgré la fragilité des indicateurs pour l'année 2020, l'INSEE souligne que la France sort de l'épisode Covid en 2021 avec un taux de pauvreté supérieur à celui qu'elle avait quand elle y est entrée. Article d'Anne-Sophie Le Chevalier et Alice Claire pour Libération. Plus de 69 millions d'enfants vivent toujours sous le seuil de pauvreté dans les 39 pays les plus riches du monde, alerte l'UNICEF dans un rapport qui pointe notamment de fortes lacunes politiques au Royaume-Uni ou en France. Pays riches, mais enfants pauvres. Selon l'INSEE, le travail ne protège pas toujours de la pauvreté, par Anne-Sophie Le Chevalier pour Libération. À l'heure de France Travail et de la réforme RSA, en créant une sanction et des obligations supplémentaires pour les allocataires, les chiffres font état de l'aggravation de la situation que décrivent les associations depuis plusieurs mois. Le nombre d'allocataires de minima sociaux a de nouveau augmenté, avec 4,34 millions de personnes concernées fin 2022. Tandis que le pouvoir d'achat des personnes au RSA a reculé, a établi l'adresse, direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques. La part des gens vivant en logement ordinaire en situation de privation matérielle et sociale n'a jamais été aussi élevée depuis 2013. Et pendant ce temps-là, la fortune des 500 personnes les plus riches a bondi de 1,5 milliard de dollars en 2023, selon les calculs du Billionaire Index de Bloomberg. L'année 2023 a souri au portefeuille des plus grandes fortunes de la planète, titre Les Échos. Les pauvres et la misère, les riches et l'opulence. Des sujets qui traversent toute l'histoire, signe pour Libération, Damien Dole.
L'info locale et régionale. C'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
Demain, c'est ici et maintenant, vous invite à la rencontre de Marc-André Sellos, professeur du Muséum national d'histoire naturelle, biologiste français, spécialiste en botanique et en mycologie. Il intervient dans le cadre d'une conférence dédiée à la vie secrète du sol ce vendredi 12 janvier à la salle des fêtes du Bois d'Oie. À 20h. Marc-André Sellos ouvrait les assises de l'agrologie en Beaujolais 2023 en juin dernier au château de l'Éclair, porte des pierres dorées, à l'initiative de l'Inter-Beaujolais. Nous avions alors recueilli les propos de celui-ci. Première question, les défis à relever dans nos pratiques agricoles.
C'est un propos que j'ai souvent vis-à-vis de l'agriculture en général et de la viticulture en particulier, c'est d'essayer de montrer ce que l'on a compris aujourd'hui de la biologie et de l'écologie des sols et de montrer d'une part que certaines pratiques actuelles ne sont pas compatibles, notamment par exemple le labour qui augmente l'érosion et qui détruit les stocks de matière organique des sols alors que c'est important pour le fonctionnement des sols, et qu'au contraire, on a des mécanismes qu'on commence à comprendre qui sont des leviers pour demain. Par exemple, ces champignons du sol qui s'associent aux racines des plantes, comme la vigne, qui aident ces plantes à exploiter les ressources du sol. Donc c'est de montrer l'avancée des connaissances et des perspectives, moi je ne suis pas viticulteur, je ne suis pas agriculteur, mais des perspectives d'évolution de nos pratiques qu'ensuite eh bien, chacun doit incarner dans ses pratiques et dans son bassin de production. Il y a à la fois ce fait que nos sols s'érodent parce qu'ils sont déstructurés par le labour et qu'après le labour il n'y a plus de végétaux pour les couvrir, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que nous abusons de l'utilisation d'intrants de type pesticides qui sont assez dangereux, bon à la fois pour ceux qui les appliquent et ceux qui consomment les produits agricoles, mais qui sont aussi dangereux pour la vie du sol et qui réduisent la capacité du sol à entretenir sa fertilité et son fonctionnement. Et puis l'autre grand enjeu, outre donc la réduction du labour et des intrants pesticides, l'autre grand enjeu, c'est de rétablir la matière organique dans les sols, parce que cette matière organique, elle est responsable de la cohésion des sols, elle lutte contre l'érosion, elle nourrit certains organismes du sol, mais encore, elle est responsable des réserves en eau du sol. Plus il y en a, plus le sol garde l'eau, et avec nos étés secs, c'est important. Et la dernière chose, c'est que toute la matière organique qui est dans le sol, figurez-vous que c'est autant de CO2 qui n'est pas dans l'air. Plus on met de fumier, plus on laisse des plantes qu'on a cultivées en hiver se décomposer au sol, plus on stocke du carbone et plus on lutte contre l'effet de serre. Ça, c'est joli parce que ça veut dire qu'en soignant les sols, on peut faire des gestes qui soignent le climat.
Que penser du retour de l'enherbement dans nos vignobles?
Alors, lui aussi lutte contre l'érosion, lui aussi a des fonctions favorables pour l'entretien des microbes du sol qui sont favorables aux plantes et qui sont notamment favorables à la vigne. Donc un enherbement hivernal, c'est préparer les microbes qui aideront les racines de la vigne quand elle aura repris son activité. C'est vraiment un enjeu important, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, j'en ai un peu parlé pour des raisons qui sont surtout historiques, les vignes ne sont pas encore bien adaptées à l'enherbement et elles ont leurs racines trop en surface, du coup il y a une concurrence pour l'eau en été. Mais comme je l'ai expliqué, il y a des perspectives pour que tout ça s'améliore, et notamment si les jeunes vignes apprennent à aller chercher l'eau en profondeur, alors les effets négatifs sur la disponibilité en eau de l'enherbement vont régresser, et on n'aura que les effets positifs de stabilisation du sol, d'entretien de la vie du sol, et au fait, ces plantes, elles peuvent aussi amener des choses, je pense à des engrais verts qu'on sème en interrang dans la vigne, elles peuvent amener de l'azote à la vigne, donc elles peuvent être vraiment demain des auxiliaires.
L'inévitable question sur les intrants.
Oui, alors effectivement, la vigne, c'est 3% de la surface agricole utile en France et 20% des intrants, ça veut dire qu'elle est vraiment sous perfusion. Les engrais minéraux ont leurs limites. D'abord, ils ont un coût carbone important pour leur production et leur transport, mais ils ont aussi leurs limites parce qu'ils perturbent un peu la vie du sol qui n'est pas habitué à un tel flux de fertilité. Et puis, il y a tous les pesticides. 80% des intrants dans la viticulture, c'est les pesticides qui luttent contre les champignons. Et là, il y a des perspectives importantes, mais qui d'ailleurs échappent à la simple biologie du sol. Aujourd'hui, on a des cépages résistants aux maladies qui ont été produits par l'INRA, ce qu'on appelle les res durs, et qui nous offrent des perspectives de réduire d'un facteur 10 les traitements pesticides. Et quelque part, il va falloir qu'on pense aussi, vous voyez, il ne faut pas penser qu'au sol, il faudra qu'on pense aussi à quel cépage pour demain, parce que le climat change. En plus, on a des cépages qui demandent moins de pesticides. Il y a là des perspectives intéressantes pour avoir demain un encépagement un peu différent, mais qui permettrait justement d'utiliser moins de pesticides, de protéger donc par là les sols, parce que quand on passe moins souvent pour mettre des pesticides, on tasse moins le sol en plus, et qui nous permettrait de limiter l'usage de molécules qui sont dangereuses pour les viticulteurs et aussi pour les consommateurs.
Est-ce qu'à terme, il faudrait penser effectivement modifier notre Gamay, qui est un cépage emblématique du Beaujolais?
Alors je viens de faire arracher la tête, je pense, par ceux qui vont m'entendre, mais la réponse est oui. Elle est oui pour deux raisons. Un, l'encépagement, il a varié historiquement. Quand on regarde les cépages médiévaux, on retrouve guère que le savagnin dans les cépages médiévaux, parce que maintenant on est capable d'identifier ces cépages par leur ADN dans des pépins qui ont été conservés. Donc on voit très bien que l'encépagement a toujours changé, il a beaucoup changé au moment du phylloxéra. Alors peut-être pas dans cette région-ci, mais ce qui a fait la grande force de l'agriculture et de la viticulture en France, c'est son agilité, sa capacité à s'adapter. Or, nous avons un défi de réduction de l'utilisation des pesticides et d'une adaptation à un climat différent, plus sec, eh bien oui. Soit en prenant des cépages venus du sud, soit en prenant de nouveaux cépages issus de la sélection variétale qui est très active en France, oui, demain, la force de notre viticulture, ce sera de maintenir cette agilité, cette adaptation au changement, et oui, demain, on n'aura pas les mêmes cépages.
La vie secrète du sol, conférence animée par Marc-André Sélos, c'est ce vendredi 12 janvier à 20h au Bois d'Oie, à la salle des fêtes, à l'initiative de l'association Demain, c'est ici et maintenant. Zoom sur le Festival des Jeux 2024. Jeux vidéo, rétro gaming, cosplay, jeux de plateau ou de construction, autant de divertissements les 13 et 14 janvier à l'atelier Les Échevins, le gymnase du lycée Notre-Dame ou encore la Maison du patrimoine à Villefranche-sur-Saône. Événement à l'initiative du Lions Club Villefranche-Beaujolais. Une présentation tout d'abord du rendez-vous. Nous accueillons Vincent Réchaud, membre du Lions Club et directeur du Festival des Jeux, Bob Fourdraine, membre organisateur du loto, et Stéphane Berland, membre et chef du protocole.
C'est important de noter également un autre élément au cours de ce week-end, c'est que ceci est réalisé également avec le concours d'associations de jeux, ce qui va permettre également aux familles qui vont venir participer au Festival de Jeux d'être en contact direct avec des associations, ce qui va peut-être leur permettre de pouvoir adhérer à une association. Vous voyez, il y a un effet également facilitateur de mise en contact vers les associations pour permettre aux gens d'y accéder.
Alors, dans le jeu, bien évidemment, on a tous envie de gagner et j'imagine qu'il y a des tournois pour ça.
Oui, tout à fait. Il y a des tournois de belote, tournois de Scrabble. Il y a la fameuse aussi dictée de Bernard Pivot qui, cette année, va être très, très relevée. C'est toujours le challenge chaque année d'arriver à faire le moins de fautes possible. Les meilleurs font entre 1 et 3 fautes. Pour la majeure partie d'entre nous, on est plutôt entre 12 et 25 fautes sur la dictée. Donc c'est pour vous donner un peu le niveau. On a également au niveau des échecs, on a un grand maître qui vient spécialement sur le festival, qui est différent d'ailleurs chaque année. Et l'ensemble des joueurs d'échecs peuvent se mesurer à lui. C'est des gens qui ont une capacité à jouer simultanément avec 12 à 20 joueurs. Donc avec des coups préparés d'avance, c'est assez spectaculaire.
Une 16e édition sous le signe des nouveautés.
On a mis en avant cette année notamment les jeux de figurines, parce que ce qu'on appelle les jeux de figurines font appel souvent à l'histoire. Ce sont des gens qui remettent en scène, grâce à des petits personnages souvent peints par les personnes elles-mêmes, remettre en perspective donc des scènes historiques. Et c'est ce qui se déroulera notamment à la Maison du Patrimoine. Mmh. La Maison du Patrimoine sera le lieu dédié...
Qui vous rejoint cette année.
Qui nous rejoint cette année, oui, tout à fait. Et donc on a axé sur les figurines et sur l'histoire, parce qu'on se met déjà en perspective de l'année prochaine, où on aura la possibilité, j'espère, de participer à la commémoration de la libération d'Arnas, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, on a déjà entrepris toute une démarche qui devrait être l'année prochaine, donc du coup, non pas du cosplay à l'honneur, mais plutôt ce qu'on appelle des reconstitueurs, donc des personnes passionnées d'histoire qui sont en costume d'époque ou en costume reconstitué. Et donc, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais on a quelques projets sous le coude.
Très bien, vous aurez l'occasion d'en venir pour nous parler de tout ça. Le Amuse-Box, j'ai vu, et le Norovia, de petits mots peut-être.
Alors je veux pas trop dévoiler, ce sont des nouveaux jeux, donc on va laisser les visiteurs découvrir. Ces jeux qui sont des jeux familiaux. On peut jouer en famille, certains en extérieur, d'autres simplement en intérieur.
Très bien. Et donc là, où pour pouvoir participer?
Alors le plus simple, encore une fois, c'est le lieu de convergence, la salle de l'atelier. À la salle de l'atelier, quand vous êtes accueillis, on vous remet un livret, le livret du festival, qui devient finalement un livret de jeu. Et ce livret va permettre aux visiteurs de s'orienter sur les différents sites et d'aller sélectionner les associations et les jeux qu'ils veulent rencontrer.
Largement investi dans la cause humanitaire, l'action Festival des Jeux du Lions Club Villefranche-Beaujolais permet de soutenir une vingtaine de projets de solidarité et d'associations chaque année.
Notre bénéficiaire principal pour cette action, c'est Dr Clown, donc avec lesquels on œuvre depuis maintenant de nombreuses années, et le festival leur est en grande partie dédié. Donc ça nous permet de faire des dons auprès de Dr Clown qui sont quand même pas négligeables chaque année. Mais on en a une partie qui est réservée à d'autres associations qui peuvent aussi, et ça c'est important de le dire, nous solliciter pour des besoins. En général, on essaye d'avoir des demandes en local, mais on a parfois des demandes d'associations locales ponctuelles sur des familles qui ont un proche très malade et qu'il faut équiper médicalement là où il n'y a pas d'aide et il manque de financement, et des familles qui ne peuvent pas équiper le malade. On a parfois des demandes qui nous sont faites, qui passent auprès d'une commission au sein de notre club, et le Festival des Jeux nous permet de récupérer des fonds qui sont aussi en partie destinés à des demandes spécifiques. Chaque année, on étudie les demandes, et une fois par an, on a une soirée qui s'appelle la soirée du cœur, qui nous permet du coup de distribuer ces fonds à, comme on le disait, une douzaine, une quinzaine d'associations. Et le principal levier de collecte pour le Lions Club de Villefranche est ce Festival des Jeux, qui du coup revêt un caractère extrêmement important pour nous. C'est pour ça que l'ensemble du club est sur le pont, parce que plus on arrive à collecter de fonds, plus on arrive à aider ces associations locales, et on est un peu le réceptacle des demandes, parce que justement, maintenant, il y a un peu de notoriété qu'on est là pour aider en local, et on est très souvent sollicité, donc il nous faut des fonds. Il est très important de soulever que plus on a du monde, plus on a d'impact en communication, et que le festival est bien entendu et bien évidemment soutenu par le livret du festival qu'on édite, qui nous permet de collecter énormément de fonds par des partenaires locaux, des entreprises qui prennent une publicité dans le livret. Et c'est en grosse partie peut-être à 75 ou 80% par le biais du livret et de cet accompagnement des entreprises locales qui prennent une petite pub dans le livret, qu'on arrive à lever des fonds. Et je remercie nos sponsors qui sont très souvent là depuis de nombreuses années et qui nous font confiance et qui renouvellent leur adhésion. Et c'est en adhérant et en prenant des pubs dans notre livret qu'on arrive, nous, à lever ces fonds pour ces associations.
Demandez le programme festivaldesjeux.fr.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.